Lorient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, le Sud-Caucase est de nouveau en ébullition depuis fin septembre et la reprise du conflit en Azerbaïdjan pour le contrôle du Haut-Karabakh. Avec notre invité Julien Zarifian, spécialiste de la politique américaine dans cette région, nous essaierons de voir à hauteur d'homme quels sont les enjeux de cette guerre pour les populations locales, de démêler les liens entre les différents acteurs et d'imaginer ce que pourrait être une hypothétique sortie de crise. En seconde partie d'émission, comme chaque samedi, nous lirons la presse régionale avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Julien Zarifian.
Bonjour Éric Bataillon.
Maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Cergy-Pontoise, vous êtes spécialiste de la politique étrangère des États-Unis au Sud-Caucase. Un premier conflit avait opposé le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan en 1990, lors de l'éclatement de l'URSS. Il avait pris fin 4 ans plus tard. Depuis, la région avait retrouvé un certain calme. Que s'est-il passé pour que les hostilités reprennent fin septembre ?
Alors déjà, un certain calme, vous avez raison de le dire ainsi. Malgré tout, des tensions avaient eu lieu à plusieurs reprises tout au long de ces dernières décennies, et parfois des tensions assez violentes qui s'apparentaient même à des petites guerres de quelques jours. Par ailleurs, on a côté azerbaïdjanais une volonté de prendre le Karabakh qui est extrêmement forte, et là encore depuis la fin des hostilités en 94, avec un discours anti-arménien très dur et très violent, et avec un discours belliciste très violent également. Et puis intervient effectivement la Turquie, comme c'est maintenant bien avéré, qui opère, si vous voulez, un rapprochement sur le plan militaire, rapprochement qui existe déjà avec l'Azerbaïdjan, présenté comme un État frère, une nation sœur et État frère. Et la Turquie, très probablement, incite, en tout cas, soutient totalement l'Azerbaïdjan dans cette volonté de réentamer une guerre pour récupérer ou pour gagner le Haut-Karabakh. Et là encore de manière assez agressive et brutale. Et notamment, là aussi c'est bien documenté maintenant, la Turquie envoie à sa solde des djihadistes de Syrie.
Un élément dont on reparlera un peu plus tard, Julien Zarifian. Mais pour l'Azerbaïdjan, s'agit-il d'abord et avant tout d'une question de souveraineté sur une portion de territoire qui lui a été attribuée en 1917? Ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux derrière ce conflit, notamment un enjeu religieux peut-être?
Non, je placerai pas l'aspect religieux en tête. Il y a un enjeu effectivement plutôt symbolique de fierté nationale et refus finalement d'accepter d'avoir perdu cette guerre à laquelle l'Azerbaïdjan a pourtant largement participé et n'a jamais fait montre, si vous voulez, de recul durant la guerre ou même après. Donc il y a vraiment cette volonté de récupérer pour des raisons, oui, je dirais de fierté, de principe, si vous voulez, récupérer un territoire qu'ils estiment leur.
Une petite partie de la population du territoire du Haut-Karabakh était musulmane et a donc fui l'enclave à la fin des hostilités, après 1994. Cela fait donc près de 30 ans. Est-ce que ces populations, elles aussi, sont un enjeu dans cette guerre ?
Oui, bien sûr, il s'agit de réfugiés. Donc leur nombre n'est pas facile à évaluer. J'ajoute que des réfugiés, il y en a eu assez massivement des deux côtés. Il y a beaucoup d'Arméniens qui ont été expulsés de certains territoires autour du Haut-Karabakh et même de tout l'Azerbaïdjan. Et il y a beaucoup de musulmans qui ont été expulsés ou en tout cas qui sont partis d'Arménie au même moment. Donc la question des réfugiés est un enjeu réel. S'agissant des réfugiés du Haut-Karabakh, encore plus, bien évidemment. Leur nombre n'est pas facile à estimer aujourd'hui, d'autant que 30 ans se sont écoulés environ. Donc voilà, beaucoup de ces gens sont décédés. D'autres, peut-être, ne voudraient pas revenir au Karabakh. Et pareil pour les réfugiés, évidemment, arméniens. Donc ces questions sont difficiles, mais sont souvent mises en avant, notamment par la partie azérie. Donc oui, il y a une vraie question autour des réfugiés. Et c'est vrai qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, l'aborder et la trancher.
Vous parliez de la Turquie, donc de l'importance de son intervention dans le conflit, peut-être une façon d'inciter l'Azerbaïdjan à revenir sur un conflit. Comment se matérialise cette intervention de la Turquie ? Est-ce que il y a des renforts qui sont envoyés à Bakou ? Vous citiez un certain nombre de milices qui seraient parties. Des troupes peut-être ? Des avions ? De l'armement ?
Oui, un peu de tout ça. Donc déjà un soutien politique très fort dans les mots, dans le discours. Donc on a de manière avérée, très clairement, des djihadistes par centaines, voire peut-être au-delà du millier, qui ont été envoyés de la Syrie, du nord de la Syrie, en Azerbaïdjan pour combattre au Karabakh, à la solde de la Turquie. Donc c'est assez avéré. Les services secrets de grands États comme la France, la Russie, les États-Unis l'ont confirmé. Donc il y a vraiment plus de doute à ce sujet. On a aussi un certain nombre d'officiers, de sous-officiers de l'armée turque qui sont en Azerbaïdjan et qui font partie du commandement. Et sans doute ont-ils une place importante dans l'état-major en ce moment même. Il y a aussi des formateurs. Et puis il y a aussi un soutien militaire avec des avions, notamment des avions de chasse. Et de manière encore plus significative peut-être, des drones. On peut parler aussi des drones israéliens évidemment, mais il y a des drones turcs qui jouent un rôle important, des drones d'attaque bien évidemment. Donc voilà, un soutien multiforme. Et j'ajouterais que tout récemment, je crois mercredi, sauf erreur de ma part, le vice-président turc a même annoncé que la Turquie serait prête à envoyer des troupes, des soldats de son armée en Azerbaïdjan si l'Azerbaïdjan le demandait.
Les miliciens qui viennent de Syrie, ce sont des groupes qui étaient déjà supportés par la Turquie face, par exemple, aux Kurdes ?
C'est exactement ça. Dont une bonne partie, visiblement, de turcophones, qui étaient déjà, en fait, des supplétifs, d'une certaine manière, de la Turquie, et qui sont donc envoyés en Azerbaïdjan. Certains sont passés par la Libye également. Et tout ça est relativement documenté, parce qu'on a même des témoignages dans la presse internationale, notamment The Guardian et The New York Times, je crois, de ces gens même qui témoignent et qui disent combien ils reçoivent de soldes par la Turquie, etc. Donc tout ça est documenté, oui.
Et côté au Karabakh, côté arménien, y a-t-il des aides aussi qui viennent de l'extérieur de ce type ?
Non, pas à ma connaissance. Peut-être quelques Arméniens de la diaspora et une aide, je dirais, matérielle et morale de la diaspora. Mais bon, on reste dans un giron, dans un univers arménien, c'est sûr. Il n'y a pas de troupes étrangères au sein de l'armée arménienne, ça c'est sûr.
Vous citiez Israël. Donc Israël apparemment intervient dans ce conflit. Aux côtés de qui et pour fournir quoi ?
Bon, aux côtés de l'Azerbaïdjan, alors pas directement militairement, si j'ose dire, mais par des ventes d'armes et notamment des drones d'attaque, des drones armés qui font des ravages terribles et notamment sur les populations civiles, en tout cas sur des cibles civiles. Avec un niveau de coopération très élevé, des contrats importants dans ce domaine-là et même une entreprise, une usine de construction de drones israélienne est installée dans la banlieue de Bakou, si je ne me trompe pas.
Et pour quelles raisons Israël soutient-il plutôt l'Azerbaïdjan ?
Bon, déjà, c'est contesté par beaucoup de monde en Israël même, évidemment. Les ventes de drones qui ont encore eu lieu récemment au début du conflit. L'industrie militaire israélienne fournissait encore des drones récemment donc à l'Azerbaïdjan. Donc c'est critiqué par beaucoup, notamment en Israël et bien au-delà. Bon, il y a des affinités maintenant relativement anciennes entre l'Azerbaïdjan et Israël qui se basent notamment sur des liens dans le domaine énergétique. Et en fait, très concrètement, l'Azerbaïdjan fournit une grande quantité du pétrole et maintenant du gaz israélien.
Il y a également depuis quelques jours en Iran des manifestations de population azérie, en Iran bien entendu, qui dénoncent le soutien que Téhéran apporterait à l'Arménie. Est-ce que cette aide dénoncée vous paraît crédible ?
Non, je dirais pas en ces termes. Il y a une forme de relative bienveillance de Téhéran à l'égard de l'Arménie de longue date, qui se base sur des rapports vraiment anciens et puis parfois sur des ennemis communs à la période ottomane notamment et même après. Donc une forme de bienveillance, mais Téhéran est très prudent dans ce domaine, affiche une neutralité qui me semble assez réelle. Évidemment, il y a un lien terrestre, il y a une frontière entre l'Arménie et l'Iran, donc c'est une voie de communication et vous avez des camions iraniens qui livrent, si vous voulez, des produits non militaires, évidemment, mais des produits à l'Arménie. Donc ça, bien évidemment. Mais j'imagine qu'il y a ce genre de transit aussi avec l'Azerbaïdjan. Au-delà de ça, l'Iran essaye de rester sur une posture relativement neutre et pour ne pas attiser non plus, justement, le ressentiment, si vous voulez, de ces populations turcophones iraniennes du nord de l'Iran que vous évoquez à l'instant.
Donc ils craignent peut-être aussi une révolte de ces populations turcophones, peut-être, en Iran ?
Absolument. Et une instrumentalisation de ces populations par l'Azerbaïdjan ou la Turquie.
Côté azéri, on l'a dit, il s'agit de reconquérir un territoire que l'on estime avoir perdu. Mais côté arménien, quel est le véritable enjeu de cette guerre ?
Côté arménien, on est vraiment sur des questions, je dirais, existentielles. Évidemment, le Karabakh, une terre arménienne, peuplée avec un peuplement arménien sans discontinuer depuis des siècles, etc., qui est menacé d'être dépeuplé de ses populations, puisque c'est ce qui se passerait, d'une manière ou d'une autre, les Arméniens du Karabakh ne resteraient pas dans un Karabakh sous giron azéri. C'est clair, c'est qu'il faudrait développer pourquoi, mais enfin, on le sait déjà. Il y a vraiment le risque de la fin, si vous voulez, du Karabakh arménien. Donc pour la partie arménienne, il y a cet enjeu-là. Et ensuite, il y a une fragilisation de l'Arménie, donc Karabakh inclus, mais aussi de la République d'Arménie. Fragilisation, ne serait-ce que sur le plan démographique, hein. On est quand même à sans doute près de 1000 soldats arméniens tués à ce jour, plus quelques dizaines, voire une centaine de civils. C'est pas rien pour un pays qui compte au maximum 3 millions d'habitants. Et une fragilisation plus symbolique également, puisqu'il y a toujours cette crainte d'être un petit peu entre un marteau et une enclume, l'Azerbaïdjan et la Turquie, et avec une existence vraiment qui peut être constamment menacée, fragilisée. Et voilà, donc sur le long terme, il y a aussi cette crainte-là qui est extrêmement forte. Et donc en dernier lieu, c'est bien de l'existence des populations arméniennes sur leurs terres historiques dont il s'agit.
Le Haut-Karabakh qui demande sa reconnaissance comme État indépendant, d'abord cet État serait-il viable et est-ce une sortie de crise possible dans ce conflit ?
Oui, viable a priori, oui, il faudrait voir dans quelles conditions, sans doute une forme de rattachement à l'Arménie à un moment ou un autre, voilà, ou une indépendance telle qu'elle est aujourd'hui, mais avec une très grande proximité avec l'Arménie. Et puis par ailleurs, le Haut-Karabakh, depuis 25 ans maintenant, a mis en place, je dirais, tous les attributs d'un État, avec des élections, un président, un parlement, etc. Une économie sans doute à petite échelle, mais qui fonctionne, aidée par l'Arménie certes, mais qui fonctionne quand même. Donc la viabilité, à mon avis, ne pose pas plus de questions que ça. Puisque de toute façon il y a l'alternative d'un rapprochement encore plus grand avec l'Arménie, hein, d'un rattachement à l'Arménie. Voilà, donc pas de problème de ce côté-là. Et s'agissant de la reconnaissance du Haut-Karabakh comme une solution, c'est effectivement une solution possible qui est de plus en plus évoquée en monde arménien évidemment, mais aussi en France. Hein, des parlementaires ont déposé un projet de loi en ce sens il y a quelques jours, aux États-Unis également. Donc ça pourrait être une forme de sortie de crise, mais qui serait évidemment problématique, ne réglerait pas toutes les questions, notamment pas celles des frontières, des limites exactes de ce territoire qui serait reconnu et qui serait de toute façon très fortement rejeté par l'Azerbaïdjan. Mais à ce stade, bien sûr que c'est une option qui commence à être fortement évoquée.
Merci Julien Zarifian.
Merci Eric Bataillon.
Maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise, spécialiste de la politique étrangère américaine dans le Sud-Caucase. Ashtu mi amech lërruqion e rtirun U mi janë verkere vira vor hoqi U shumë e invor terba të ras me kënun Khera ma di meq mi bata nisim vor E karo dov na ma kërë kërun Na hi shumë Hajreni Të varat Hajot së lërë në rum Mirasi La chanteuse libanaise d'origine arménienne Sarina Cross, un court extrait de la chanson Soldier's Song. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, on commence avec vous et à la une de nombreux journaux arabes, la situation politique au Liban.
Oui, et plus précisément la tentative de former un nouveau gouvernement sous la direction de Saad el-Hariri. Et les titres font souvent référence au cinéma « L'homme des missions impossibles »,« Hariri, le retour »,« Le gouvernement de la dernière chance » et les analystes sont partagés. Il y a ceux qui pensent que le chef du parti Al-Mustaqbal, à dominance sunnite, est le seul à pouvoir sortir le Liban de la crise où il a sombré, et ceux qui au contraire estiment que Hariri est à l'origine de la crise actuelle. Plusieurs éditorialistes reviennent aussi sur le rôle du Hezbollah chiite. Pour les uns, c'est le faiseur de roi, des premiers ministres en l'occurrence, et pour d'autres, c'est un des principaux responsables de la déstabilisation du Liban. Pour certains commentateurs, peu importe le premier ministre, puisque l'avenir du Liban est décidé par les puissances régionales, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Si Téhéran et Riyad arrivent à un consensus, Hariri pourra gouverner, sinon le Liban continuera à s'enfoncer dans la crise.
Michel Paul, de nouveaux rapprochements vus de pays arabes avec Israël, un sujet qui fait la une en Israël, Michel Paul.
Israël-Soudan, on est plus proche que jamais de la normalisation, titre prudemment ce week-end le quotidien Yediot Aharonot. Alors il faut dire, Eric, que voilà quelques jours, la presse israélienne annonce quotidiennement l'imminence d'une nouvelle déclaration de Khartoum. Dans les journaux, le long itinéraire parcouru par les deux pays dans la clandestinité depuis 3 ans, des rencontres secrètes, la dernière en date il y a tout juste quelques jours. Le premier ministre soudanais attend désormais le feu vert de son parlement, ce qui pave la voie de cette démarche. C'est la promesse américaine de retirer le Soudan de leur liste noire des pays qui parrainent le terrorisme. Dans les journaux aussi, le nom de code du responsable des services de sécurité israéliens qui fait progresser les contacts avec Khartoum, on le nomme Maoz. Autre information que l'on retrouve dans la presse ici, un autre pays du monde arabe s'apprête à sortir du placard, selon l'expression qui est utilisée. Les médias mettent l'accent sur la visite éclair du ministre de la Défense Benny Gantz à Washington, où on lui a promis, selon la presse, que la supériorité stratégique d'Israël serait maintenue pendant plusieurs décennies.
Et en politique intérieure, Michel, il est à nouveau question d'élection.
Écoutez plutôt ce titre de Maariv, le cirque à la Knesset. Alors le journal fait allusion à une loi sur une enquête parlementaire sur l'acquisition de sous-marins adoptée par le Parlement israélien et le vote immédiatement annulé par le président de la Knesset, un proche du Premier ministre Netanyahou. À retenir dans ce même journal un sondage, à un moment où donc il est à nouveau question de nouvelles élections en Israël, le Likoud, le parti de Netanyahou, remonte la pente, talonné par le parti de droite nationaliste Yemina, le parti bleu-blanc de Gantz se retrouve avec juste 9 sièges, la dégringolade, et ce genre de sondage, expliquent les commentateurs, ne peut qu'encourager le Premier ministre à s'engager dans la voie d'une nouvelle campagne électorale. Dans les journaux aussi, la citation d'une ancienne ministre du parti Likoud, l'ère Netanyahou, touche à sa fin.
Alexandre, analyste et éditorialiste, s'intéresse toujours à l'assassinat de Samuel Paty, l'enseignant français décapité.
Et là aussi, les avis sont partagés. Il y a d'abord ceux qui reprochent au gouvernement français, et notamment à Emmanuel Macron et à son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'avoir une attitude hostile à l'islam. Il s'agit généralement des journaux proches du Qatar qui soutiennent les frères musulmans et les mouvements islamistes en général. Il y a ensuite ceux qui pensent que la France n'a que trop tardé à faire face aux dangers islamistes et notamment frères musulmans. Il s'agit des journaux d'Arabie Saoudite, des Émirats et d'Égypte, 3 pays qui ont banni des frères musulmans qu'ils ont inscrits en tête des organisations terroristes. Il y a enfin ceux qui pensent que ce qui se passe en France relève tout simplement des défis auxquels font face toutes les démocraties libérales, c'est-à-dire le retour en force des mouvements populistes et extrémistes qui profitent de la liberté pour prôner des idéologies illibérales ou absolutistes.
Alexandre, pour les journaux égyptiens, précisément, l'événement est l'illumination solaire de Ramsès II.
Oui, un phénomène qui se déroule le 22 octobre de chaque année depuis près de 3000 ans au temple d'Abou Simbel à l'extrême sud de l'Égypte. Les rayons du soleil traversent alors 60 mètres pour illuminer durant une demi-heure le visage de la statue de Ramsès II dans le Saint des Saints du temple. Cette année, on a eu droit à 2 illuminations. L'une à Abou Simbel et l'autre au grand musée égyptien non encore inauguré et où une statue colossale de Ramsès II a été placée de telle sorte que le soleil illumine son visage. Au même moment, plusieurs centaines de touristes ont assisté à l'événement malgré le coronavirus.
En bref, Michel, d'autres sujets traités dans vos journaux et bien sûr les élections américaines.
La presse se passionne pour la campagne électorale américaine. Plusieurs chroniqueurs le disent clairement. Le résultat des élections aux USA aura une influence prépondérante sur la vie politique en Israël même. Haaretz fait remarquer à la une que les sondages américains prédisent la défaite de Trump, tout comme en 2016, et cela inquiète les démocrates. Pour Maariv, cela déterminera même le type de relation entre Israël et les États-Unis pour les prochaines années. Dans les journaux, la situation à la frontière avec Gaza, cela chauffe, titre un quotidien. C'est, indiquent les commentateurs ici, le résultat de la découverte par l'armée israélienne d'un nouveau tunnel qui passe sous cette frontière.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani, à retrouver en podcast sur notre application Pure Radio ou sur notre site www.rfi.fr. À demain.